Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10. Et ce matin, nous voulons regarder les versets 5 à 13, mais on va reprendre la lecture à partir du premier verset. Paul, je vous rappelle, a exprimé son fardeau pour ses compatriotes selon la chair. Il a même dit au chapitre 9 qu'il voulait être lui-même anathème, séparé de Christ à cause de ses frères, ou pour mes frères, qui sont les Israélites. Et donc, il continue, et il développe cela au chapitre 10. Et voici la parole de Dieu. Verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur: qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et jusque-là, la parole de Dieu. Donc, ça fait quelques semaines qu'on suit l'apôtre Paul dans les chapitres 9 et 10 où il parle de ce fardeau qu'il a pour ses compatriotes. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que ce que l'apôtre nous dit ici n'est pas facile et il faut prendre le temps pour bien réfléchir. On a vu que l'apôtre avait un cœur lourd. Il écrit et il pleure pour les siens. On sait que l'apôtre Paul est un grand théologien. Il l'a montré dès le début de cette lettre, dans les premiers chapitres. Mais c'est encore plus un homme de prière et un homme qui est zélé, qui a une passion pour l'évangile. Et cela nous montre que comprendre l'évangile et avoir une passion pour l'évangile ne sont pas deux choses qui sont opposées. Ces deux choses sont les meilleurs amis du monde à une seule condition, que celui qui explique l'évangile ait un cœur brisé, comme l'apôtre Paul. Et quand il nous donne cet exemple, qu'il écrit avec ce profond chagrin, ce profond fardeau, on devrait nous aussi le suivre et avoir un fardeau pour ceux qui nous entourent, que ce soit ceux de nos familles, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Et que là où Paul nous emmène, que nous aussi nous ayons un cœur brisé comme l'apôtre Paul. Parce que c'est seulement comme cela qu'on peut comprendre ces chapitres. Quand il y a certaines personnes qui se plaignent de l'enseignement de Paul, cet enseignement rigoureux au sujet de la souveraineté de Dieu. La meilleure façon de leur répondre, c'est de percer leur orgueil. C'est une chose de trouver l'enseignement difficile, c'en est une autre de se tenir au-dessus de l'enseignement et de dire: c'est pas juste que Dieu soit souverain de cette façon. Et la chose la plus facile pour percer ce genre d'orgueil, c'est de poser la question: quand est-ce que remonte, à quand remonte la dernière fois où cette personne a pleuré avec un cœur brisé pour le salut d'un autre être humain? Parce que quand on est là, quand on est avec l'apôtre Paul qui a ce fardeau, quand on arrive à ce stade où nous aussi on a ce même fardeau pour des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, alors on commence à comprendre pourquoi cet enseignement sur la souveraineté de Dieu est un baume pour l'âme, un réconfort pour notre âme. Et c'est ce que Paul a souligné dans ces chapitres. Chapitre 9, on a vu qu'il a établi que, bien que ses compatriotes ne soient pas venus à la foi en Jésus-Christ, la raison de leur non-venue n'est pas dans le fait que la parole de Dieu a failli. Bien au contraire, Paul a bien souligné que la raison qu'ils ne sont pas venus, c'est qu'ils ont rejeté l'Évangile, ils ont refusé l'Évangile. Et c'est donc important pour nous de comprendre comment Paul réfléchit. Paul n'est pas en train de dire ici que la raison pour laquelle ses compatriotes ne sont pas venus à Christ, ne sont pas sauvés, c'est qu'ils n'étaient pas élus. Il n'est pas en train de dire que la raison pour laquelle ils sont condamnés, c'est parce qu'ils n'étaient pas prédestinés. Non. La raison pour laquelle ils sont condamnés, la raison pour laquelle ils ne sont pas sauvés, c'est qu'ils ne sont pas venus à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont refusé de venir à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et à la base de tout ce que Paul dit dans ces chapitres, se trouve ce qu'il a enseigné au début de cette lettre. Dans le premier chapitre, Paul a souligné que nous n'avons aucun fondement sur lequel nous pourrions nous tenir devant Dieu, que nous n'avons rien en nous-mêmes qui pourrait attirer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il n'y a rien en nous sur quoi le salut pourrait se fixer. Il n'y a absolument rien. Nous sommes pécheurs devant Dieu et nous avons besoin de cette grâce de Dieu, de cette miséricorde d'élection. Parce que sans cela, il n'y a aucun espoir pour le salut, pour quiconque. Parce que nous sommes tous morts dans nos offenses et dans nos péchés. Et Paul a amené sa réflexion à un point culminant au verset 3 de ce chapitre 10. Il dit que ses compatriotes ont du zèle pour Dieu, mais leur zèle cherche à établir leur propre justice devant Dieu. Et cela résume la véritable condition de ses compatriotes, mais aussi de l'homme naturel. Et il le résume de trois manières. Ils vont ensemble. Ils ignorent l'Évangile. Ils revendiquent une indépendance par rapport à la voie du salut de Dieu. Et ils manifestent un profond sentiment d'insubordination devant Dieu. Ils ne veulent pas se conformer à la voix de Dieu. Et la fin du verset 3 du chapitre 10, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et ils ont insisté pour tout faire à leur façon, à leur manière. Mais, verset 4, mais, dit l'apôtre Paul, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La dernière fois, quand on a regardé ce verset, on a dit que le mot fin peut signifier à la fois la finalité, la fin, c'est terminé, mais ça peut aussi définir le but, la finalité. Et les deux, en fait, les deux sens ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Mais dans ce passage, même si le Seigneur Jésus-Christ est le but vers lequel pointe la loi, dans ce passage, Paul est en train de dire, quand vous venez à croire au Seigneur Jésus-Christ, cela met fin à toutes ces pensées que la loi pourrait vous apporter une justice devant Dieu. Et on a cité l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3, où il parle de sa propre expérience. Il montre comment cela a été vrai. Il y a un temps dans sa vie où il pensait, en ce qui concerne la loi, ils sont considérés comme absolument irréprochables. Il ne dit même pas « parfait », il dit « irréprochable ». Personne ne pouvait le montrer du doigt en disant qu'il était plus bas que la moyenne. Non, non, il était irréprochable. Il n'a pas failli. Paul sait que en cela, il cherchait sa propre justice. Mais il écrit que son désir maintenant, c'est d'être trouvé en Christ, abandonnant toute possibilité de se tenir devant Dieu avec sa propre justice, mais c'est d'être trouvé en Christ, non avec ma justice, écrit-il, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et dans les versets donc, que nous voulons voir ce matin, les versets 5 à 13, Paul va reprendre ce principe que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et il va le développer d'une façon merveilleuse. Mais deux choses à noter avant d'aller plus loin. La première, c'est que l'on doit être conscient que le raisonnement de Paul est très dense. Il faut se rappeler parce que certaines personnes stressent ou sont paralysées quand il faut aborder un point où il faut réfléchir. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que beaucoup des lecteurs à qui s'adresse l'apôtre Paul étaient des esclaves. Ce n'étaient pas des étudiants de l'université de Rome. Non, Paul écrit à des personnes qui sont ordinaires. Et on n'a pas besoin d'un diplôme universitaire pour bien réfléchir. Et on ne doit permettre à personne de nous tromper sur ce point. On n'a pas besoin d'un diplôme universitaire pour bien réfléchir. Et quand on voit, survole ce passage, on peut voir son raisonnement. Il commence au verset 5, « En effet !» Et là, il va développer son argumentation. Verset 10, il vient au cœur, « Car !» Verset 11, « Selon !» Verset 12, « En effet !» Verset 13, « Car !» C'est un peu comme les poupées russes. Vous en enlevez une, il y en a encore une autre. Vous en enlevez une, il y en a encore une autre. Et Paul fait un peu la même chose. Il arrive à ce raisonnement et hop, il y a encore un autre point. Il y a encore quelque chose à voir. C'est comme si ça ne s'arrêtait pas. Et je vous invite à relire ce passage chez vous pour bien voir la manière dont Paul réfléchit, la puissance du raisonnement de Paul quand il réfléchit à l'Évangile. Mais on doit garder cela en tête. Il faut prendre ce temps. C'est dense, mais il faut prendre le temps. Et on n'a pas besoin d'un diplôme universitaire pour réfléchir correctement. La deuxième chose à noter, c'est que lorsque Paul réfléchit à l'Évangile, on voit qu'il vient déverser l'Ancien Testament dans son raisonnement. Je ne sais pas si les jeunes ont fait cela ou si les plus anciens d'entre nous se rappellent d'avoir rempli, colorié des tableaux selon les chiffres. Vous saviez, il y avait le 1, ça représentait le blanc, le bleu, 2, c'était le bleu, le 3, le jaune, etc. Et si on respectait les chiffres et les couleurs qui étaient attribuées, on pouvait obtenir une belle image. Et l'apôtre Paul est en train de faire ceci en utilisant les Écritures. Il va utiliser l'Ancien Testament et peindre ce tableau. C'est comme en admirant les tableaux des impressionnistes. On voit les couleurs qui sont utilisées. On voit la manière dont la peinture a été déposée sur la toile. Et on voit, quand on regarde, on voit une œuvre qui est superbe. Et Paul fait quelque chose de semblable ici, dans ce passage, et avec les Écritures. Et c'est sans doute la dernière fois dans cette lettre où il va montrer de manière très claire que la voie du salut a toujours été par la foi et non par les œuvres. Et en tenant compte donc de ces deux points, Paul dit essentiellement deux choses dans ces versets 5 à 13. Dans les versets 5 à 9, il adapte l'Évangile pour en faire une pièce à deux voix. On entend la première voix dans le verset 5, et ensuite la deuxième qui vient dans les versets 6 à 9. Et dans les versets 11 à 13, la deuxième partie, c'est qu'il va appliquer cela, son enseignement, de deux manières. Donc, le premier grand point, la pièce à deux voix. Et donc, la première voix qu'on entend et celle de Moïse. Et Paul va citer Lévitique chapitre 18. L'homme qui mettra mes lois et mes ordonnances en pratique vivra par elles. Et c'est le principe de la loi. C'est le principe de base de la loi. C'est le principe de base des commandements. Fais ceci et tu vivras. Ce n'est pas quelque chose que Paul invente, non. C'est ce que l'enseignement, c'est l'Ancien Testament le dit. Fais ceci et tu vivras. C'est d'ailleurs même ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit au jeune homme riche qui est venu le voir. Vous vous rappelez qu'il lui a posé la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour vivre? Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ, c'est simple. Va et obéis au commandement. Tu auras la vie éternelle. C'est ce que la Bible enseigne. Si on obéit au commandement, on a la vie éternelle. L'erreur du jeune homme, c'est de répondre et de dire au Seigneur Jésus-Christ, j'ai déjà fait tout cela. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Et Jésus a appuyé là où le bât blesse. Il a utilisé le même commandement qu'il a utilisé pour l'apôtre Paul au sujet de la convoitise. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as. Vends-le aux pauvres. Et toi, suis-moi. Mais ce n'était pas facile, c'était même impossible pour le jeune homme. Et cela est devenu clair à la fois pour le jeune homme riche, comme c'est devenu clair pour l'apôtre Paul, qu'il n'a pas gardé le commandement. Il n'a pas gardé ce commandement et donc il a désobéi à toute la loi. Parce qu'il a convoité ce que les autres avaient. Et il gardait pour lui ce qu'il aurait dû partager avec les autres. Mais Paul dit, Moïse dit, fais ceci et tu vivras. Mais Moïse sait que personne ne peut le faire. Moïse sait que personne peut le faire. Moïse dit, fais ceci et tu vivras. Le Seigneur Jésus-Christ dit, fais ceci et tu vivras. Mais le Seigneur Jésus-Christ sait que le jeune homme riche ne pourra pas le faire. Parce que depuis la chute d'Adam, la justice, la sainteté, la piété, la fidélité, l'obéissance, tout cela n'a jamais été activé par le cœur de l'homme pécheur, de l'homme inconverti. Cela n'est activé que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Paul l'a expliqué un peu plus tôt en Romains chapitre 4, et Paul l'expliquera aussi dans sa lettre aux Galates au chapitre 3. Il dit, mais ne comprenez-vous pas que lorsque Moïse dit « Fais ceci et tu vivras », Moïse savait que notre salut ne pouvait pas reposer à l'autre bout de notre obéissance. Parce que nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Notre salut doit dépendre de la promesse, de la grâce de Dieu, cette promesse qu'il a donnée 430 ans avant la loi. Galates 3, verset 17. Moïse le savait. Mais la première voix que l'on entend est celle de Moïse qui dit, si vous voulez être sauvé, si vous voulez vivre, avoir la vie éternelle, alors gardez les commandements et vous vivrez. Fais ceci et tu vivras. Et c'est vrai. Mais personne ne peut le faire. Et dans cette pièce, il y a une deuxième voix qu'on entend à partir de verset 6. Et la deuxième voix dit quelque chose de radicalement différent. Moïse parle de la justice qui est basée sur la loi et que la personne qui mettra en pratique vivra, mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Mais la justice qui vient de la foi, de cette foi en Jésus-Christ qui sauve, nous amène dans une relation juste avec Dieu et dans la vie éternelle. Et cette justice parle d'une manière totalement différente. Verset 6, ne dis pas en ton cœur, et là encore, il cite Deutéronome chapitre 30, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire, laisse-moi y aller par mes propres moyens, laisse-moi faire mes efforts pour arriver, pour monter au ciel. Non, parce que c'est en faire descendre Christ, C'est-à-dire, c'est comme si Christ n'était pas monté au ciel pour notre salut. Ne dis pas non plus qui descendra dans l'âme. C'est-à-dire, laisse-moi faire quelque chose de vraiment difficile pour mon salut. Laisse-moi même mourir, faire quelque chose de vraiment difficile pour mon salut. Dis non. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. C'est comme Christ n'était jamais mort pour mes péchés à la croix. Que dit la parole? Que dit la justice qui vient de la foi? Elle dit que nous n'avons pas à aller très loin. Que nous n'avons pas à faire de grandes choses. Au verset 8, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de l'Évangile, c'est la parole de salut par la foi que nous proclamons. Ce n'est pas une question d'œuvrer pour entrer dans la justice de Dieu, par nos efforts. Non, c'est une question de croire dans son cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, de confesser de sa bouche que Jésus est notre Seigneur. Et le génie dans tout ce raisonnement, c'est qu'au verset 5, Paul parle de Moïse. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Mais au verset 6, Paul ne mentionne pas le nom de Moïse, mais il cite Moïse. Il cite Moïse. Et c'est très ingénieux. On a peut-être du mal à le voir parce qu'on ne connaît pas très bien Deutéronome chapitre 30. Mais pour ceux qui se disaient dans le camp de Moïse, qui avaient du mal à accepter ce que Paul, l'apôtre Paul, disait, Paul les prend ici à la gorge. Ces personnes disent, « Oui, moi je suis avec Moïse. Moïse a dit, fais ceci et tu vivras, et moi je veux le suivre, je suis dans son camp. » Mais Paul montre que même Moïse qui a dit, « Fais ceci et tu vivras. » Moïse sait que la seule voie vers la vie éternelle, ce n'est pas faire, mais croire en ce que Dieu fait. Et Paul va insérer l'Ancien Testament et va citer Moïse sans ridiculiser ses opposants. Parce que la personne qui dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur », c'est Moïse. Deutéronome chapitre 30. Et en fait, ce que Paul dit ici, c'est qu'il dit d'une façon dramatique ce qu'il a déjà dit plus tôt. Nous ne sommes pas sauvés en gardant la loi. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. La loi elle-même rend témoignage que la foi en Christ est effectivement la seule voie du salut. C'est comme si Paul disait à ses compatriotes, mais vous n'écoutez pas ce que Moïse est en train de vous dire. Vous n'avez pas à monter au ciel par vos efforts. Vous n'avez pas à descendre dans l'abîme, à faire des choses extraordinaires pour gagner votre salut. Non ! La parole est près de vous, elle est dans votre bouche, dans votre cœur. Il suffit d'ouvrir la bouche, de crier « Seigneur, sauve-moi ! Aide-moi ! Sois mon sauveur ! Prends ma vie ! Pardonne mes péchés !» Mais l'homme s'épuise à chercher à monter au ciel alors que le ciel est déjà descendu sur terre en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à croire en lui, à venir à lui tel que nous sommes, les mains vides, en nous saisissant de la croix. Voilà la simplicité de l'Évangile. Voilà la grâce de l'Évangile. Et Paul n'a cessé de rappeler cela dans cette lettre aux Romains. Et Paul sait que c'est sans doute la dernière fois qu'il peut le faire dans cette lettre, mais il est vraiment passionné par cela. C'est comme s'il redisait encore une fois, « Avez-vous réellement compris la voie du salut, la simplicité du salut, de simplement crier à Dieu, de crier au Seigneur Jésus-Christ, « Sauve-moi. » C'est là, c'est tout prêt. Il suffit d'ouvrir la bouche, de confesser que notre Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ est le seul Sauveur, de lui demander sa grâce et son salut. C'est là. C'est juste là. Paul a donné ce message, cet évangile dans cette pièce à deux voix. Et deuxième grand point, donc, il l'applique de deux façons. Et la première façon, c'est qu'il montre dans les versets 9 à 11 l'absolue nécessité de la foi dans le salut. Le salut n'est pas une récompense qui nous est donnée à la fin de notre vie chrétienne. Non, c'est le don que nous recevons au début de notre vie chrétienne, alors que nous venons à Christ par la foi. Beaucoup de personnes ressemblent à Naaman. Vous vous rappelez qu'il se présente devant la maison du prophète. S'attend à ce que le prophète fasse des choses extraordinaires, prononce des paroles merveilleuses, ou lui donne quelque chose de difficile à faire. Et le prophète lui dit simplement d'aller se laver dans le Jourdain, une rivière qui n'était pas très propre, et qu'il serait guéri de sa lèpre. Naaman est furieux. Et beaucoup de personnes veulent se laver dans toutes sortes de rivières. Elles sont en colère quand on leur dit qu'il faut aller à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il suffit de demander pardon à Dieu, de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur, de reconnaître qu'ils ont besoin d'être pardonnés et que Christ est venu pour effacer nos péchés. Mais la croix est un scandale. Pourquoi est-ce que je demanderais à Dieu de me pardonner? Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est qu'en étant lavé dans le sang versé à la croix par le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ce n'est que lavé dans son sang que nous sommes purs. Et beaucoup de personnes cherchent d'autres moyens et cherchent par leurs efforts, alors que non, c'est là, c'est tout près. Il suffit d'ouvrir la bouche, de reconnaître nos fautes, de crier au Seigneur Jésus-Christ et de le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Beaucoup de personnes dans l'Église commettent cette erreur. Elles font toutes sortes d'efforts, elles se battent pour l'Église, elles font tout ce qu'elles peuvent dans l'Église, en dehors de l'Église, à côté de l'Église, autour de l'Église, en espérant accumuler suffisamment de points pour le jour du jugement et espérer entendre le Seigneur Jésus-Christ dire « C'est bon, entre. » Mais ces personnes n'ont aucune assurance du salut parce qu'elles s'appuient sur ce qu'elles font, sur leurs efforts, sur les sacrifices qu'elles font. C'est toutes les personnes religieuses, c'est la même chose. Ces personnes qui sont dans des sectes. On peut leur poser la question, est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Est-ce que vous pouvez vous réjouir de savoir que vous êtes réconcilié avec Dieu? Parce qu'aucune théologie ne peut donner l'assurance du salut. Et ces personnes nous disent, ah, peut-être, Dieu va peut-être me justifier parce que je vais faire tous les efforts possibles pour espérer être un jour justifiable. Mais Dieu ne justifie pas des personnes qui sont justifiables. Dieu justifie des personnes qui sont pécheurs. Les seules personnes que Dieu justifie sont des pécheurs. C'est pour ça qu'il a donné son Fils pour nous sur la croix. Est-ce qu'il aurait fait cela s'il y avait un autre moyen de nous apporter le salut? Est-ce qu'il aurait envoyé son Fils sur la croix s'il y avait un autre moyen de nous apporter le salut? Et c'est pour ça que Paul est tellement passionné par l'Évangile et pour l'Évangile, parce qu'il sait qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont esclaves de cette pensée. Je vais faire mes efforts pour monter au ciel. Je vais tout faire, faire des sacrifices, je vais descendre dans l'abîme. Alors que non. Il n'y a aucune raison de le faire, parce que Christ lui-même est venu dans ce monde. Christ a tout accompli pour notre salut. Il a accompli ce salut, il a satisfait toutes les exigences de Dieu. Il est monté au ciel. Il est maintenant à la droite du Père, préparant une place pour son peuple. La clé qui ouvre la porte du ciel, c'est notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, cette foi que Dieu donne. La foi qui sauve, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est indispensable. La deuxième chose que Paul dit, la deuxième application, c'est que si la clé, si la foi est la seule clé, si la foi en Jésus-Christ est la seule clé pour entrer au ciel, alors cela veut dire que l'Évangile est pour tout le monde. Tant que la voie était la loi de Moïse et des commandements, cela ne s'adressait qu'à un petit groupe de personnes, qu'à une petite nation dans le monde. Mais Paul nous a renvoyés à l'Ancien Testament. Et il cite encore une fois Joël, chapitre 2, verset 32. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, juif, non-juif, l'offre de l'Évangile est pour tous. Elle n'est pas basée sur mes œuvres, sur ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, parce qu'aucune action, aucune de mes actions ne peut me qualifier pour Dieu. Paul le rappelle, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Le Seigneur est le même Seigneur pour tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non juifs. Plus encore, il dit, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur ne se contente pas de nous donner sa justice, la justice de Christ. Non, il nous comble de toute richesse en Jésus-Christ. Parfois, nous avons le sentiment d'être indignes, de ne pas être à la hauteur, mais il faut nous rappeler que Dieu nous voit en Christ. Effectivement, même si nous chutons, même si nous sommes conscients de nos manquements, il faut aussi nous rappeler de l'autre côté comment Dieu nous voit. Il nous voit en Christ. Il voit la justice parfaite de Christ qui nous revêt. Et il dit à l'Esprit-Saint, donne-leur encore plus de richesse. Déverse encore plus de richesse en eux. Je ne sais pas si un jour nous allons réellement comprendre ce que l'apôtre a dit au chapitre 8 et au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Toute chose avec lui. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Paul dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc Paul nous rappelle encore une fois ici la merveille de l'Évangile, la simplicité de l'Évangile, la grâce de l'Évangile. Il n'y a pas de choses extraordinaires à faire. C'est là, tout proche, c'est dans ma bouche. D'ouvrir ma bouche, de crier à Dieu, de lui demander sa grâce, de confesser mes péchés, de reconnaître que je suis coupable, et de lui demander d'être mon Seigneur et Sauveur. Voilà. Voilà ce que cela implique. C'est tout près. Pas besoin d'aller, de monter au ciel, pas besoin de descendre dans l'abîme. C'est là. C'est près de nous. N'écoutons donc pas cette voix qui nous dit de nous appuyer sur nous-mêmes, de nous appuyer sur nos mérites, sur nos efforts, sur ce que nous pouvons faire, sur les sacrifices que nous pouvons faire. Non. Écoutons cette voix, cet appel de l'Évangile, de venir à Christ, tout simplement, de crier à lui et de nous appuyer sur lui et sur lui seul, parce que lui seul est le chemin vers Dieu. Lui seul est le seul sauveur. Lui seul est celui qui nous réconcilie avec Dieu par son œuvre parfaite. Que Dieu nous aide à vraiment saisir cela, qu'il nous aide à nous réjouir dans ce merveilleux évangile et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.